en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Michel Zinc, grand universitaire, philologue et médiéviste, spécialiste éminent de la littérature du Moyen-Âge, 12e, 13e et 14e siècle. Michel Zinc, qui a été élu le 3 juin 2000, membre de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, et le 28 octobre 2011, secrétaire perpétuel de cette Académie. Michel Zinc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel. 7 questions récurrentes posées donc à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. La première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été jusqu'à présent à vos yeux, Michel Zinc, le moment essentiel ?
À n'en pas douter, ma nomination comme professeur au Collège de France. Ça a été quelque chose d'inattendu, parce qu'au Collège de France, on ne se porte pas candidat, on attend qu'on vienne vous chercher. Et il n'y avait pas, à mes yeux, de raison particulière pour qu'on vienne me chercher, mais enfin, on l'a fait. Une nomination que je dois à Marc Fumaroli, à Yves Bonnefoy, à mon regretté vieux maître Félix Lecoix.
C'était en 94.
C'était en 94. Et le Collège de France est une institution unique au monde, vraiment magnifique, chaleureuse, stimulante, on vit vraiment la fusion de la recherche et de l'enseignement. Et
mais pourquoi est-ce différent ? Pourquoi est-ce différent
mais de... Parce que dans une université...
Vous avez été un grand professeur de Sorbonne, par
oui,
exemple.
Oui, mais à la Sorbonne, vous faites des cours qui correspondent à des niveaux. Alors vous choisissez un texte, vous faites le cours de seconde année, de troisième année, puis d'agrégation, si ça vous est imposé, un séminaire, et puis ça recommence. Et puis il y a toute la machinerie universitaire autour, puis il faut faire passer des examens, et puis il y a ceci. Au Collège de France, on fait sa recherche, on enseigne sa recherche, on parle de ce qu'on veut, à condition que ce soit toujours nouveau, on n'a jamais le droit de se répéter, au bout de 18 ans, ça commence, ça commence à être dur, mais du coup...
Surtout quand la matière ne se renouvelle pas.
Bah, exactement. Oui.
C'est de la chaire de littérature médiévale.
C'est ce que je disais quand je suis arrivé à un collègue physicien, chair de physique, la physique théorique, mais physique statistique, ça s'appelait. Je lui disais, vous êtes dans la science en marche, etc. Oh, il me dit, bon pauvre, si vous croyez que ça change tous les ans, la physique statistique, enfin, tout le monde est angoissé par ces cours, d'autant plus qu'ils sont très public, tout le monde peut venir, c'est oui, gratuit, c'est on y va comme au cinéma, sauf que c'est gratuit, puis maintenant ils sont sur le web, ils sont sur France Culture, ils sont partout, si on dit des bêtises, ça se voit. En même temps, comme on est chacun seul de sa spécialité, on découvre des tas de choses qu'on connaît pas. Comme il n'y a pas de continuité des chaires, nous devons chercher sans cesse qui nous pourrions faire venir, quelle discipline nous pourrions accueillir. Donc c'est aussi un travail
intellectuel.
Il y a un lien entre nous autour de cela. Donc on parle vraiment de questions intellectuelles et pas seulement de carrière ou de choses comme souvent malheureusement dans les universités. Et puis ça c'est l'aspect noble, mais il y a aussi que c'est une position honorable, oui. Flatteuse, il faut bien le dire.
La vanité est tout son compte, quoi.
Et voilà, et que en vue, et que cela entraîne ensuite un enchaînement des honneurs, comme pour moi l'Institut, oui, ou oui. Des choses comme ça, selon le principe évangélique à celui qui donnera, à celui qui a, on donnera.
Les appels de l'étranger aussi.
Oui, voilà, parce d'autant plus que nous pouvons, enfin si nous avons des invitations, faire chaque année un tiers de notre cours à l'étranger. Délocalisé. Comme
alors, j'ai vu que vous aviez été invité un peu partout, hein. États-Unis,
oui.
Italie, Espagne,
oui,
Suisse,
oui,
etc.
Maintenant que je suis secrétaire perpétuel, j'ai peur d'avoir un peu plus un fil à la patte, mais jusqu'ici, j'avoue, oui, que c'est.
Mais quand vous dites, c'est une institution sans équivalent. Il n'y a vraiment rien au monde qui se rapproche de ça ?
Qui se rapproche peut-être, mais non, il n'y a pas d'équivalent parce que.
Personne n'a eu envie de l'imiter.
Si. On a eu envie de l'imiter, mais par exemple, l'Institute for Advanced Studies de Princeton, que maintenant on veut imiter en France, a été créé sur le modèle du Collège de France.
Ah, c'est drôle, ça.
Mais la différence, c'est que les fellows de cet institut n'enseignent pas, ou ils sont pas obligés d'enseigner. Tandis que nous sommes obligés d'enseigner. C'est une institution de recherche, on est obligé d'enseigner.
C'est plus prudent. Alors, en lisant un livre, j'allais dire, pardonnez-moi le mot, mais charmant, que vous avez publié en 2009 aux éditions Talendier, qui s'intitule « Seuls les enfants savent lire ».
Ah, vous me faites
ça,
plaisir.
Ça a dû faire grincer des dents, ça, à votre académie. Hein,
comment
votre académie.
Oh, ils ne sont pas
seuls
comme ça. «
Seuls les enfants savent lire ». Bon. Alors, vous révéliez que vous étiez un élève paresseux, enfant, et que vous vous attardiez le plus possible le moment de vous mettre au travail. Alors, quand avez-vous pris conscience que, quand même, il fallait que ça change parce que...
Mais oui, mais j'étais paresseux, mais je travaillais quand même. J'ai travaillé malheureux toute ma vie, j'aime c'est pas vrai, ça du tout, mais j'ai toujours beaucoup travaillé. Et je n'aime pas ça, non pas que je n'aime pas réellement le travail qu'on fait, oui, mais oui, j'ai peur. J'étais angoissé. J'avais peur de me faire gronder, oui, j'avais peur d'avoir une mauvaise note. Du coup, alors c'est pire, je reculais le moment de travailler pour ne pas être dans l'atmosphère de la crainte de la mauvaise note.
Et vous le faites toujours, ça, ou pas?
Eh bien, j'ai toujours peur.
Quand même, maintenant, vous y mettez plus tôt, non?
Ben, je m'y mets, il faut bien que je m'y mette. Mais j'ai toujours l'impression que je ne vais pas réussir à m'y mettre, que,
c'est vrai,
etc.
C'est
ouais, oui, oui, oui.
Ah, c'est bien, c'est
ah,
bien.
Ah, mais non, mais je suis une conscience malheureuse qu'il faut plaindre.
Oui, ça, je ne vais pas vous plaindre pour ça.
Oui, bon, on ne se gâte pas d'aller jusque-là.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, Michel Zinck, sur votre domaine d'activité? Alors, on va sérier, hein. On va mettre d'un côté votre activité de médiéviste et de l'autre côté vos nouvelles responsabilités, toutes fraîches, hein, ça date d'octobre.
Ben 2011, oui, oui, c'est tout bizu.
De secrétaire perpétuel dans de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Alors, d'abord, votre activité médiéviste.
Oui, alors je suis médiéviste, mais philologue, spécialiste de littérature. Alors, les historiens se justifient facilement. L'histoire est une discipline importante. Justifier la littérature, c'est plus difficile. Et pour dire quelque chose d'essentiel sur la littérature du Moyen-Âge, il faudrait que cette littérature soit ou fût essentielle elle-même. Et à mes yeux, elle est essentielle, ouais, en effet, sinon ce serait vraiment désespérant, mais elle est à deux conditions, et je ne suis pas certain que ces deux conditions soient vraiment remplies dans le monde où nous vivons. La première condition, c'est que la littérature soit essentielle. C'est-à-dire que nous soyons un certain nombre, qu'il y ait un certain nombre de gens à travers le monde, dans un pays, pour qui la vie n'est pleinement vécue que s'il y a, je dirais pas à travers la littérature, parce que ça voudrait dire qu'on ne vit pas, mais que la littérature et les mots se mêlent à la vie pour que la vie ait du sel.
On est quand même beaucoup à penser
ça. On est beaucoup à penser ça, oui, mais on se demande toujours si nous sommes beaucoup, évidemment, qu'à Canal Academy, nous sommes assez nombreux à le penser.
Ailleurs,
c'est pour ça qu'il est rassurant d'être dans les murs du Palais de l'Institut. Enfin, le monde est vaste. Et la seconde raison, c'est que le passé soit essentiel et qu'on ne se contente pas de l'empathie immédiate avec le contemporain ou bien de la projection anachronique dans le passé, comme on fait en allant immédiatement au jugement que l'on porte sur le passé ou ramener le passé sur le présent, mais qu'on sente que toute la force de l'esprit, tout le plaisir qu'on tire de l'esprit vient de la capacité d'imbriquer l'étude exacte, l'étude patiente, l'étude savante même d'un passé qui nous échapperait sans cet effort patient, et de le mêler à la jouissance de s'approprier un texte ancien venu de loin, de le comprendre, de le goûter vraiment, d'en être enrichi. Pour les historiens, c'est plus facile parce que enfin, je suis désolé, ils font un travail bien plus difficile et plus noble que nous autres pour
vous. Mais non, pas de précaution.
Mais l'historien peut traiter, mettre le passé à distance, il doit même le faire.
Oui.
Et plus il montre que la distance est profonde, plus il risque de dire des choses, ou il a des chances de dire des choses intelligentes dessus. Nous ne pouvons pas nous contenter de cette distance, parce que si la littérature est vraiment à distance, on n'a aucune raison de la lire.
Elle n'est pas,
pour que la lire, il faut
pas le relais d'une âme.
Il faut qu'elle nous dise quelque chose. Elle nous dit effectivement quelque chose. En nous le disant, elle nous trompe ou nous trompons sur elle parce que nous commettons des anachronismes. Il faut corriger ces anachronismes. Mais ensuite, revenir à nous. Et c'est ce mouvement de va-et-vient qui est difficile.
Alors, on va prendre un exemple.
Nous faisons.
En vous écoutant, je me dis, il y aura un exemple. Vous êtes, vous, le responsable de la publication des œuvres complètes de Rudebeuf.
Oui, enfin, je l'ai fait tout seul, ça. Hein, je suis responsable de la collection Lettres gothiques.
Enfin, deux volumes.
Rudebeuf, j'ai fait ça tout seul, oui.
Ce coup de foudre-là, il repose sur quoi?
Alors, oh, un coup de foudre.
Aujourd'hui, bon,
oui,
il y a Brassens,
il y a bon. Un coup de foudre pour Rudebeuf, ça serait.
Non, c'est pas un coup de foudre.
Si, c'est, enfin, oui et non.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous a apporté,
bon,
Rudebeuf?
Il y a, d'une part, l'aspect coup de foudre, ce sont les poèmes de Rudebeuf que tout le monde connaît, que Ferré mis en musique, etc. Bon,
d'accord.
Et qui sont ce qui touche immédiatement. Mais ce qui m'a attiré chez Rudebeuf, c'est que c'est un poète qui se met en scène lui-même et qui tire ses effets poétiques d'une mise en scène caricaturale de lui-même, de l'autodérision, sa misère, son vice, etc. Donc une tradition, on a dit le premier des poètes maudits, pour le coup c'est anachronique. Mais enfin, il y a bien une tradition, tu vois, de Rudebeuf, Villon, etc. Bon, et jusqu'au poète maudit. Et cela, ça m'intéressait parce que je travaillais à cette époque sur l'idée que on peut vraiment parler de littérature. Comment la littérature réémerge-t-elle au Moyen-Âge? On peut vraiment parler de littérature s'il y a une conscience de soi de la littérature et une conscience de l'auteur au travail. Et ça, je le trouvais dans Rudebeuf plus que dans d'autres œuvres. Donc je me suis dit, tiens, je l'avais pris comme exemple dans un livre qui s'appelait « La subjectivité littéraire autour du siècle de Saint-Louis ». Je me suis dit, tiens, c'est tellement intéressant que je pourrais bien l'éditer et le traduire, ce que j'ai fait.
Alors il y a un texte de vous qui est impressionnant, c'est « Les voix de la conscience, paroles du poète et paroles de Dieu dans la littérature médiévale ». Qu'est-ce que les poètes du Moyen-Âge vous ont appris de Dieu ?
Bon, j'ai moi-même, nous reparlerons peut-être des préoccupations domaine, donc ça m'intéressait. Alors, ils m'ont appris beaucoup, d'abord parce qu'ils en parlent beaucoup, parce que, évidemment, c'est l'essentiel à cette époque, et aussi parce que Dieu, ou au moins le christianisme, pouvait tuer la poésie, d'une certaine façon. Dans la plupart des civilisations, dans le paganisme antique, la poésie est un médium du sacré. Donc, on a besoin de la poésie pour atteindre le sacré. Mais si Dieu s'est fait homme, si on a les textes qu'il a dit, etc., on n'a plus besoin de la poésie. Et on peut lire la littérature du Moyen-Âge comme un lent effort pour retrouver une légitimité à la poésie, à la fois au regard de la vie intellectuelle et affective, et au regard de Dieu lui-même. Alors, ce sont des questions qui m'ont toujours occupé, et les voix de la conscience, c'est en fait un recueil d'articles. Mais j'ai fait ensuite un livre qui s'appelle « Poésie et conversion au Moyen-Âge », qui traite de façon systématique de cette question.
Et votre découverte essentielle, enfin, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette recherche que vous ayez perçue ?
Eh bien, c'est difficile à dire parce que tout est très imbriqué.
Mais nous permettre d'accéder, quoi,
oui,
un petit peu.
D'une part, c'est au Moyen-Âge que l'amour devient la grande affaire de la poésie, beaucoup plus que dans l'Antiquité,
où c'est la poésie érotique. Vous avez fait un livre sur l'art d'aimer, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure.
C'est un poésie érotique est un genre mineur, et à mon avis, c'est justement parce que il y a un moment où on ne peut plus raccrocher l'inspiration à l'inspiration divine, il faut trouver une autre raison de l'enthousiasme poétique, et c'est l'amour. C'est la première chose. Et
ah donc, l'amour est un substitut à Dieu, là, c'est ça ?
C'est ma théorie, j'ai peut-être tort.
Hein, mais c'est intéressant, ça.
C'est ce qu'il me semble. Et puis, ensuite, quand Dieu revient, et il revient très vite, c'est l'effort de la poésie pour penser à la fois toutes les formes de l'amour, et de voir un continuum de la passion érotique à l'amour de Dieu, en passant par l'amour du prochain, Et ça a été théorisé. Il y a de la grande poésie intellectuelle, si on veut dire, du XIIIe siècle, est largement consacrée à ça. Le roman de la Rose, c'est ça. Et même l'œuvre de Dante, prise globalement, c'est ça.
Ce qui veut dire que l'amour humain est un marchepied de l'absolu.
Oui,
quoi. C'est un peu ça.
Oui, c'est ça. Alors, il est dangereux. Ma frère Mangot a écrit en Languedoc un périlleux traité de l'amour des dames, mais lui-même était probablement franciscain, et c'est à l'intérieur d'une grande construction de ce type.
Vous ne pouvez pas se permettre de sombrer.
Alors, deuxième domaine d'activité, donc vos nouvelles responsabilités. Alors, c'est probablement l'Académie d'inscription des belles-lettres, c'est probablement, vous permettez de le dire, la moins connue des cinq académies rattachées à l'Institut. J'ai repris les statuts. Voilà, je vois que l'Académie s'attache principalement à l'étude scientifique des monuments, des documents, des langues et des cultures, des civilisations de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'âge classique, ainsi que des civilisations non-européennes. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle.
Oui,
l'essentiel là-dedans, c'est quoi ? C'est un état d'esprit, c'est quoi ?
Oui, c'est un état d'esprit qui est l'érudition. C'est une Académie érudite. Et alors, qui ne fait pas que de l'érudition, parce que de temps en temps, nous essayons de penser quand même, mais qui est enraciné dans le savoir.
Vous n'avez pas peur du mot savant, quoi ?
Non, nous n'avons pas peur du mot savant. D'ailleurs, notre revue, qui est la plus ancienne revue scientifique, en somme, française, s'appelle le Journal des savants.
Ah, c'est ça, oui. Pour ça que je vous posais la question.
Oui. Et alors, il faut voir que cette académie, pendant très longtemps, nous avons eu l'idée qu'au centre, il y avait l'Antiquité classique, qui était le fondement des études de la formation de l'esprit en France. Et l'Antiquité classique, donc le latin et le grec, avec, en somme, deux excroissances. Le Moyen-Âge, du côté de l'histoire nationale, ce n'est qu'assez récemment que nous sommes allés jusqu'à la Révolution, et le monde oriental, qu'on a abordé, le Proche-Orient lié au monde classique, et puis de proche en proche, et puis jusqu'à l'Extrême-Orient. Et c'est assez récemment que nous ouvrons aux autres continents, à l'Amérique précolombienne, etc. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un petit déplacement du centre de gravité et que ce qui devient le plus important, enfin, mes confrères des autres disciplines vont me tomber dessus, mais où ce qui prend de l'importance, c'est l'orientalisme, parce que c'est ce qui justifie le plus aisément notre existence dans un monde avide, multiculturel.
Oui, avec l'inquiétude concernant le choc des civilisations et tout ça.
Et ben voilà, oui, et puis si nous nous présentons en disant nous sommes ceux qui nous faisons du latin et du grec et l'antiquité classique, on dit c'est très bien, bon, ben, c'est très bien, voilà. Oui,
Socrate ou Képinène, mais bon.
Il faut qu'il en reste quelques-uns pour faire ça.
Les dinosaures,
si,
quoi.
Voilà, si nous disons la connaissance du Japon, de la Chine, du Cambodge, anciens et modernes, parce que là, nous n'avons pas de limite chronologique. C'est nous, ou même du Proche-Orient, de l'Arménie, de l'Iran, ça, c'est nous. À ce moment-là, on nous regarde d'un autre œil.
Autrement dit, vous devenez un laboratoire à ce moment-là, et pas simplement un élément de conservation, quoi.
Nous devenons autre chose qu'un élément de conservation, et nous faisons comprendre, curieusement, il est plus facile de faire comprendre que la connaissance du passé est indispensable à la compréhension du monde où nous vivons, s'agissant d'autres civilisations
que de la nôtre,
qui ne revendiquent pas une rupture avec leur passé, que de la nôtre, qui affirme qu'il y a une modernité affichée, etc.
Parce que quand on lit vos publications, très nombreuses, hein, il faudrait quand même... c'est sidérant de voir ça, enfin, je veux dire.
Oui, ben, je travaille peut-être trop vite, ce qui est vrai. Oui,
beaucoup, beaucoup de publications.
Oui.
Moi, ce qui m'a frappé, dites-moi si je me trompe, c'est qu'on a l'impression que vous êtes vraiment persuadé que vous jouez un rôle fondamental au service de la continuité de la mémoire, quoi, et en particulier de la mémoire savante. Cette idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans la chaîne de la mémoire et du savoir.
C'est vrai, mais je ne sais pas si c'est une qualité de ma part, ça tient aussi à un trait de caractère. Je vis beaucoup dans ma propre mémoire et dans mon propre passé, d'où mon petit livre sur mes lectures d'enfance.
On y reviendra.
Et du coup, je suis attaché aussi à la mémoire collective et à la mémoire d'une civilisation. Je n'aime pas que les choses se perdent et j'aime que la modernité soit enrichie, fumée, si je puis dire, du passé. Et puis, j'ai beaucoup le souci, pas d'être lu personnellement, mais de faire connaître du passé, de les faire aimer. J'ai l'impression que si ce n'est plus connu et aimé que par les membres de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
c'est foutu. Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, on va élargir les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre société, encore une fois avec la part de jeu qu'implique ce type de question. Quelle est, Michel Zinc, l'idée essentielle que vous aimeriez faire passer à ce propos ?
À propos de
l'évolution du monde en général,
oui,
comme ça,
alors,
vous avez une idée
à... Oui, mais vous savez, est-ce qu'un membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres est le mieux placé pour ça ?
Vous savez, c'est pas la question.
Bon, je sais bien, je vais y répondre.
Plongez.
Il y a un roman de Jean d'Ormesson qui s'appelle Casimir mène la grande vie,
où
il y a un membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres qui a écrit un petit truc érotique, etc. Et que pendant tout le roman, il appelle le membre. C'est dire comme même dans la maison, on nous traite. Bon. Donc je me sens démuni pour répondre à une question de ce genre. Mais tu peux faire une seule remarque très générale, c'est qu'on se représente toujours l'évolution du monde ou l'évolution de la société en termes de, comme un mouvement vers l'avant ou vers l'arrière, progrès ou régression. Et d'ailleurs, assez bizarrement, on se moque toujours des gens qui pensent que hier c'était mieux qu'aujourd'hui et jamais de ceux qui croient que demain ce sera mieux qu'aujourd'hui.
Mais ça commence à changer, non ?
On
avait l'impression depuis le siècle des Lumières que nous vivions un progrès continu, mais il y a une rupture, là, non, maintenant. La jeune génération, ne dit pas que demain sera mieux qu'aujourd'hui.
Oui, alors peut-être, malheureusement, si jeune sur ce point, mais c'est pas que je nie, enfin, que je sois rétrograde, mais j'ai l'impression que l'évolution n'est pas vers l'avant ou vers l'arrière, mais latéral, en quelque sorte. Comme en physique, où on vous dit rien ne se perd, rien ne se crée, là, c'est comme si il y avait dans le monde toujours la même quantité de cruauté, de violence, de souffrance, d'humiliation, mais qu'elle se déplace de sorte que...
Vase communicant, quoi.
Oui, et chaque époque, du coup, est extrêmement sensible, par exemple, à la cruauté de l'époque précédente, mais totalement aveugle à la sienne. Et c'est un des éléments qui crée l'impression du progrès.
Donc le Moyen-Âge, Philippe le Bel et les Templiers, ça d'accord, oui.
Oui, voilà, pour dire que, oui, c'est ça, pour dire que le progrès des Templiers est atroce, très bien. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas, ou nous voyons toujours avec quelques années de retard.
On l'a vu, le Cambodge et le reste.
Eh bien voilà, alors chaque époque ne voit pas sa propre cruauté, et la suivante la découvre et dit « Oh là là, que c'est affreux !» D'ailleurs, il a fallu attendre 200 ans pour que les inconvénients de la révolution industrielle apparaissent. C'est ce qu'on appelle l'écologie. Pendant 200 ans, on trouvait que c'était parfaitement bien. Peut-être que dans une génération, on considérera qu'avoir augmenté la longévité avant d'avoir été capable de remédier aux infirmités du grand âge, ça fait de notre époque l'une des plus barbares qui ait jamais existé depuis que l'humanité existe. On ne sait pas où ce sera peut-être autre
chose. Après tout, Montaigne considérait dans toute sa sagesse que l'esclavage était bon sens.
Oui, voilà. Alors, oui, c'est pour cela d'ailleurs que la vision anachronique du passé, c'est pour ça qu'il faut des historiens, est très dangereuse. Mais on le voit même dans le temps d'une vie. On a vu dans le temps d'une vie, mais à peine plus que la mienne, une époque où on considérait que la peine de mort était légitime et que l'avortement était un crime, et maintenant on considère que c'est l'inverse. Je suis né en 45, donc je n'ai pas connu la guerre, mais j'ai été élevé dans les souvenirs de la guerre, et j'ai été élevé dans l'idée que le grand crime de Vichy était un crime contre le patriotisme. Et puis il y a un moment où les mêmes personnes qui me disent ça ont trouvé que le grand crime de Vichy, comme nous le pensons maintenant, était l'antisémitisme. Ben voilà, évidemment. Mais ça qui nous paraît évident, ce n'était pas évident même dans la bouche de ma mère qui était à moitié juive.
Ouais. Donc ce qui veut dire que la culture, c'est une sédimentation avec laquelle il faut jouer.
Oui, et que ça rend l'historien prudent, ça rend prudent vis-à-vis du jugement qu'on porte, et ça rend prudent vis-à-vis des satisfaits-sites que nous nous décernons quant
à nos progrès. Du savoir, de la connaissance, de la sensibilité, du bon sens. Alors de ce point de vue, comment vous réagissez, vous, à la décision qu'a pris récemment le directeur de Sciences Po à Paris de supprimer l'examen d'entrée la dissertation de culture générale.
Oui, alors, bon, naturellement, a priori...
Dans une académie comme la vôtre, ça doit rester au travers de la gorge.
Voilà, a priori, je suis indigné. Bon. La décision a été prise en grande partie par une de mes anciennes étudiantes, pour qui j'ai beaucoup d'estime.
Oh là 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 là.
Mais enfin...
Oh, votre responsabilité.
Oui, ma responsabilité est lourde. Mais, non, a priori, naturellement, je suis indigné.
Mais,
je ne suis pas un chaud partisan des épreuves de culture générale. Telles que...
Pour les mêmes raisons que lui, c'est-à-dire que c'est l'histoire du clivage social.
Non, c'est pas du tout à cause du clivage social, ou ça pourrait l'être, mais par d'autres voies. Je trouve que ce qui est formateur pour l'esprit, ce n'est pas de savoir un petit peu de choses dans différents domaines et de pouvoir avec ça construire un petit exposé rhétorique style Sciences Po. Voilà. Que ce qui est formateur pour l'esprit, on dirait que je plaide pour bon sens, chacun est intéressé. C'est la littérature, pas forcément les textes littéraires, mais c'est d'apprendre à lire un texte, à le comprendre, à le faire repasser, passer par soi-même à nouveau. C'est pas dans, et 20 fois dans son sein le faire à repasser. Et cela, les épreuves de culture générale ne l'apportent pas tellement. Si, en revanche, l'entraînement à l'explication de texte, la mesure de la profondeur du passé dans la compréhension des textes, ça, c'est formateur. Mais cela, ça crée beaucoup moins de clivage social. Oui. Il y a beaucoup plus de parents de milieux aisés qui peuvent briefer un petit peu leur progéniture sur la situation du monde que de parents qui peuvent leur apprendre à faire une belle explication de texte sur Proust ou sur Molière, ou je ne parle pas même pas de leur faire faire une version grecque. Donc, si, dans le principe et avec les arguments de M. Descoings, je suis hostile à cette suppression, quand on voit ce que sont les épreuves de culture générale, eh bien, je me dis que peut-être, si je regardais les choses de très très près, ce que je n'ai pas fait, il n'a pas absolument tort, mais à ce moment-là, il faudrait le remplacer par quelque chose qu'il ne songe pas du tout à introduire.
Mais comme vous avez l'intention, vous le faites d'ailleurs, de faire que cette académie devienne de plus en plus sincère, de plus en plus dans une réflexion contemporaine, vous ne pouvez pas prendre position là-dessus vis-à-vis... Aller le trouver, lui dire, écoutez, nous, en tant représenter quelque chose
d'académie, absolument.
Il y a quand même des gens éminents. Et...
Non, mais c'est ce que je vais, vous savez, là...
Vous allez le faire, là On peut le dire, ça On va l'annoncer, ça
Bon, je ne sais pas si j'irai voir M. Descoings, aller voir M. Descoings, oui. Mais ça, c'est fermement mon intention, et j'ai déjà commencé, d'essayer que cette académie soit un peu plus prise en compte et un peu plus consultée. Les princes qui nous gouvernent...
Ouais, comme l'Académie des sciences, quoi.
Consultent l'Académie des sciences, constamment. L'Académie des sciences morales de temps temps, et nous, jamais. Monsieur Luc Châtel a créé un prix Jacqueline de Romilly, membre de l'Académie française, mais aussi et d'abord membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. pour favoriser l'enseignement des langues anciennes. Bon, je lui ai écrit pour lui dire que nous lui en étions très reconnaissants, mais que nous aurions aimé être associés à la réflexion sur ce prix, à son instauration. Le jury est composé d'inspecteurs, etc. L'orientation sera purement pédagogique, c'est très bien. Mais s'il y avait eu un petit peu de connaissance des langues anciennes dans un prix sur les langues anciennes, ça n'aurait pas été plus mal. Ce Châtel, jusqu'ici, ne m'a pas répondu, il me répondra peut-être, il a autre chose à faire.
Reposez-lui la question.
Oui, non, mais...
À travers cette émission.
Mais c'est...
On va lui transmettre ce que je fais.
J'étais allé voir Madame Pécresse, avec qui j'entretenais d'excellentes relations, mais elle est partie peu de temps après, et mon jeune camarade est très occupé actuellement, je n'ose pas aller le déranger, mais je le dérangerai. Et il y a, par exemple, enfin, pas perdre de temps, il y a une institution qui s'appelle l'Institut universitaire de France, qui est une sorte d'avantage donné aux meilleurs professeurs des universités, des charges de cours, crédit pour la recherche, etc. Bon, dans l'organisation, dans le jury, dans le fonctionnement de l'UEF, il y a de droit des professeurs au Collège de France, il y a des membres de l'Académie des sciences, des membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Pas de membres de l'Académie des sciences et des belles lettres. Ça dure depuis que l'UEF existe, c'est un pur scandale. Je m'étonne que nous n'ayons jamais protesté.
Vous allez prendre le problème à l'envers et vous allez faire en sorte de devenir indispensable. Quoi.
Indispensable, et là, serons-nous un jour indispensable. Je ne demande pas qu'on nous considère comme indispensable, mais comme le tiers-état, être quelque chose.
Ouais, vous deviendrez quelque chose.
Devenir quelque chose. Je ne sais pas si je réussirai. Là, je suis un peu écrasé par mes tâches au collège en même temps, mais enfin...
Bonne chance. Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, Michel Zinc, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Eh bien, je viens d'en donner un exemple. Et je bats ma culpa. Je crois que la plus grande hypocrisie de notre temps, c'est que chacun est persuadé que l'intérêt général coïncide avec son intérêt particulier. Venez donc me dire que le statut d'un professeur au Collège de France est trop favorable ou que l'Académie des inscriptions et belles-lettres ne sert à rien. Vous verrez comme je vous recevrai. Et cela me frappe, tout le monde manifeste et on ne manifeste jamais pour perdre des avantages ou pour clamer...
Ah, ça, non, ça, on l'a pas encore vu. Ça.
Non, ou pour clamer ou pour dire qu'on est indigné contre soi-même. Or, chacun d'entre nous a mille raisons d'être indigné.
Autrement dit, vous trouvez que Stéphane Hessel fait de la démagogie, enfin pour être très direct.
Non, mais c'est un homme.
Il est très très respectable.
Éminemment respectable. Bon, non.
Respecté par presque tout le monde. Mais cette démarche-là est dangereuse.
Non, mais l'effet qui a été déclenché par son petit pamphlet a été, oui, des résonances démagogiques. Ça ne fait pas de doute.
De démobilisation, quoi, quelque part.
C'est pas de démobilisation.
Curieusement, c'est l'inverse de ce qu'il cherche, en fait.
Oui, mais enfin, je parle probablement là encore trop. C'est ringard, je parle trop en moraliste, mais qu'il faut commencer par se regarder soi-même et
balayer devant sa porte.
Mais exactement, s'accuser soi-même avant d'accuser les autres. Alors, c'est un trait de tous les temps et un courant de l'humanité de toujours, mais c'est peut-être accentué aujourd'hui parce que nous avons la conviction que la revendication est une forme de devoir civique. Et puis, nous avons aussi la conviction que l'épanouissement individuel n'est pas seulement légitime, mais obligatoire. Et alors, les deux combinés n'incitent pas à commencer par rentrer en soi-même et par faire son examen de conscience, si ce langage n'est pas déplacé, avant d'aller montrer du doigt ceux qui sont très vilains.
Alors, nous parlons d'hypocrisie. Je voudrais poser une question aux médiévistes que vous êtes. Comment réagissez-vous à l'utilisation d'une grande figure du Moyen-Âge, Jeanne d'Arc, dans le débat politique qui précède l'élection présidentielle ? Ça vous titille pas un peu, ça ?
Si, ça me titille, mais c'est quelque chose de si ancien. Jeanne d'Arc a été utilisée par tous les partis constamment.
J'ai fait une liste
depuis 200 ans. Oui.
Gambetta, Jaurès, pour prendre les 150 dernières années. Gambetta, Jaurès, Michelet, Péguy, De Gaulle, Barrès, Anouilh, et j'en passe.
Mais oui.
Droite-gauche confondue, tout le monde.
Voilà, oui. Une Jeanne d'Arc de Michelet, il y a une erreur de Péguy. Mais cela montre que, d'une part, Jeanne d'Arc a été considérée comme une grande figure française à une époque où la question nationale était au premier plan, aussi bien à droite qu'à gauche. Et c'est encore son utilisation par le Front National. Mais, au-delà de cela, qu'il y a autre chose, justement, dans Jeanne d'Arc, quelque chose de fascinant dans sa personnalité, dans ce qu'elle a été, qui va au-delà de cela. Et qui est, alors, là aussi je penche de mon côté, Jeanne d'Arc est une figure très intéressante au point de vue religieux. Non pas, l'historien ne peut pas dire que si elle a vraiment eu des voix, c'est, bon, on peut pas
ça,
se prononcer.
C'est son affaire à elle.
Ça, c'est son affaire à elle. En revanche, que Jeanne d'Arc est une figure très chrétienne, à mon avis, mais pas dans le sens où on entend d'habitude, c'est la figure du, à la fois, du triomphe, de la faiblesse dans la défaite. Non pas le faible qui se révèle finalement être fort et qui casse la figure à tout le monde, mais le faible qui est courageux malgré sa faiblesse, qui dit ce qu'il a à dire, qui en paye le prix, qui est vaincu et qui gagne de cette façon.
Parce qu'il y a une période dont on ne parle jamais dans sa vie, c'est qu'elle fait sacrer Charles VII, c'est en juillet, hein, 1429.
Oui.
Et de juillet 1429 à mai 1430, elle est lâchée par Charles VII,
oui,
et elle va se faire prendre par les Bourguignons.
Exactement. Tout.
Donc pendant 9 mois,
tout va mal.
Elle n'est plus rien.
Elle n'est plus rien. La période où ça va bien est très brève.
Oui, très brève.
Elle est très brève. Et alors, tout ce qu'on peut dire, cette fille si incroyablement jeune, vraiment ce miracle d'avoir pu aller jusqu'au roi. Mais cet aspect de Jeanne d'Arc, celui que je viens de dire, à mon avis, est extrêmement touchant, et plus que touchant, c'est quelque chose qui donne à réfléchir, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, est un modèle. Et cela, avec ce qu'ils peuvent avoir l'un et l'autre de grandiloquence, etc., surtout Peggy, mais Peggy et Claudel l'ont vu tous les deux.
Oui. Pour en revenir à votre domaine à vous, qu'est-ce que Jeanne d'Arc nous permet de saisir de façon la plus intuitive qui soit du Moyen-Âge, d'essentiel du Moyen-Âge ?
Alors, d'abord, elle permet de comprendre que la foi était quelque chose d'essentiel, que ce n'était pas quelque chose d'ajouté ou quelque chose qui servait à manipuler les populations, puisque tout le monde marchait à cela, que la politique de la France et que la politique de l'Angleterre se faisaient autour de cela. Il ne faut pas les imaginer comme des vilains retors qui ricanaient et n'y croyaient pas. Pas du tout. Et donc, ça nous apprend cela, et ça nous apprend, alors, du point de vue historique, si je puis dire, pour la période. Mon maître et ami Jacques Le Goff déteste Jeanne d'Arc. Enfin, il se vante de détester Jeanne d'Arc. Bon. Et il dit, voilà, s'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc, la France et l'Angleterre auraient été unies, auraient fait un seul pays, et on n'aurait plus de guerre, etc. Eh bien, justement, c'est un raisonnement non historique.
Et vous auriez enseigné à Oxford.
Voilà, ce que montre... Oui, mais... Au Moyen-Âge, justement, les pays pouvaient être séparés et les universitaires circulaient sans arrêt. Alors, parenthèse, je reviens. Les grands professeurs au XIIIe siècle à l'université de Paris, c'est Albert le Grand qui est allemand, Thomas d'Aquin qui est italien, Alexandre de Halès qui est anglais. C'est l'Europe. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, on avait déjà le sentiment que la France et l'Angleterre, c'était pas pareil et que ça ne pouvait pas marcher si le roi d'Angleterre régnait sur la France. Et la preuve, c'est que c'est la cour d'Angleterre qui, jusqu'à la guerre de Cent Ans, parlait français, délibérément, en grande partie, a cessé de parler français parce que c'était pas national. Alors en même temps, il voulait devenir roi de France. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça, effectivement, si on raisonne avec nos idées, on se dit, mais à quoi ça rimait de se battre les Français contre les Anglais? L'exemple de Jeanne d'Arc montre que ça correspondait au moins à un sentiment extrêmement profond. Si je vais dire à Jacques Le Goff, mais regardez, cher ami, quand l'Algérie était la France, c'était un seul pays, on se disputait pas, c'était tellement mieux. Il me mettra à la porte. Enfin, plus un coup de pied dans le derrière, parce que le pauvre, il peut plus envoyer de coup de pied dans le derrière, mais enfin, ça ira très très
moralement,
mal.
Moralement.
Et il aura raison. Alors pourquoi pour Jeanne d'Arc, il vient nous embêter?
Bon, on suggérera la comparaison. Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel, quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse, Michel Zinc, le plus d'espoir?
Alors, du coup, je vais démentir ce que j'ai dit pour faire le malin tout à l'heure. Enfin, ce n'est pas seulement pour faire le malin, mais il me semble tout de même que les atteintes à la dignité humaine ou à la dignité de chacun, si on ne veut pas employer de grands mots, sont aussi nombreuses qu'elles l'ont jamais été. Pour ça, il n'y a pas de progrès, mais elles apparaissent plus qu'auparavant comme insupportables. Elles apparaissent donc plus qu'auparavant pour ce qu'elles sont. Et ça, ça me paraît indubitable. Alors il y a peut-être, selon ma théorie, une contrepartie quelque part qui apparaîtra un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas ne pas considérer que c'est un progrès, et un progrès essentiel.
Donc ça, c'est une chose...
Oui, c'est ça.
Sous réserve d'inventaire, c'est vraiment... Mais à l'instant, vous évoquiez, là, c'était extraordinaire ce que vous disiez sur l'enseignement dans les universités, donc au Moyen-Âge, où on voyait en même temps un Italien, un Anglais, un truc...
Oui.
L'Europe ne fait pas partie de vos espoirs aujourd'hui?
Si, mais je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que l'Europe a beaucoup fait partie de mes espoirs, et d'une certaine façon, ce n'est pas que je trouve que l'Europe c'est fini, mais je trouve qu'au contraire, d'une certaine façon, l'Europe c'est fait. Dans mon enfance, on disait « Ah, on ne veut plus jamais se battre ». À mon avis, on ne se battra plus. Bon,
vous y allez là, carrément.
Une guerre entre pays d'Europe, ça me paraît peu vraisemblable, enfin, tout peut se produire.
D'accord.
Mais l'Europe a été une déception parce que on a eu l'impression que ce qui était important ne venait pas et ce qui était accessoire venait.
Je vous pose cette question-là parce que vous avez publié un texte très intéressant en 2000, vous n'étiez pas seul, hein, « Identité littéraire de l'Europe ».
Oui.
Est-ce que l'Europe a existé à travers la littérature ?
Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui.
Elle, elle s'est définie à travers la littérature aussi ?
Ah oui, oui. Et à travers la vie intellectuelle. C'est-à-dire que le Moyen-Âge est une période de guerre constante, ou de conflit constant, mais c'est une époque où, d'une certaine façon, l'unité européenne, ou moins l'Europe latine, va de soi.
Oui, donc ça s'exprime. Il y a une Europe dans la littérature du Moyen-Âge.
Ah, mais oui,
on la sent.
On la sent. Ce n'est même pas une question d'influence, mais la littérature d'une langue à l'autre dans les langues... D'abord, la littérature latine couvre l'ensemble du domaine européen et est, bon, il y a des variantes, mais enfin, est homogène à travers toute l'Europe. Les littératures vernaculaires se traduisent, s'imitent l'une l'autre et sont très proches. Il y a un moment où le leadership, pour parler français, est assuré par la littérature de Languedoc et la littérature de langue d'oïl. Et alors, les Italiens, les Catalans écrivent en Languedoc. Et puis après, ils se mettent à écrire en italien.
Mais est-ce qu'il y aura un Rudebeuf anglais, par exemple, à cette époque-là ?
Eh bien, il y en a un. Mais regardez, si Chaucer, c'est l'esprit de Rudebeuf. C'est le même prix. Et un roi de Norvège, alors eux, ils avaient leur saga, tout ça, bon, ça. Mais un roi de Norvège envoie un émissaire dans le sud de la France pour étudier les troubadours, pour lui expliquer ce que c'est. Et un autre fait traduire en norrois systématiquement toute la littérature française. Il y a des œuvres de la littérature française du Moyen-Âge qui sont perdues, mais d'où nous avons la traduction
dans le Nord.
Quand on a retrouvé, il y a quelques années, un bout du roman de Tristan de Thomas d'Angleterre, dont nous n'avons que des fragments, eh bien, on a pu l'identifier à coup sûr comme tiré de Thomas d'Angleterre, parce que la Tristram saga norroise est traduite littéralement, et que voilà, c'était ça.
Donc vous pensez que la littérature a vocation à exprimer l'âme d'un pays et l'âme d'un continent maintenant.
Alors, l'âme d'un pays, ça c'est l'idée romantique. Le génie de chaque peuple s'exprime dans cette production littéraire.
C'est brillant.
Oui, bon, c'est vrai probablement, mais ça dépasse largement un seul peuple. Oui, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la littérature, c'est que c'est quelque chose de tellement concret et qui reflète tellement la vie, les préoccupations, les sensibilités d'un peuple, justement, ou d'un groupe à une époque donnée. Et en même temps, c'est quelque chose d'universel. Enfin, c'est une banalité, mais je cet exemple, ça a l'air idiot. Ensuite, j'y suis allé beaucoup, mais je suis allé pour la première fois au Japon, il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a 10-12 ans. Et j'avais peur d'aller au Japon, parce que quand on lit les choses sur le Japon, ça paraît un pays terrible, dur, bon, affreux. Mais j'avais lu, en traduction hélas, beaucoup de littérature japonaise. Et j'avais une idée totalement différente. J'avais l'idée d'une délicatesse extrême, d'une extrême subtilité dans la façon de raconter, d'une façon de raconter à la fois des choses si proches de notre propre littérature, en particulier pour la littérature médiévale, et en même temps si différente des développements que nous ne ferions pas, des ellipses pas aux endroits où on les ferait, l'inverse, enfin. Et je suis arrivé au Japon, et j'avais l'impression d'être parfaitement à l'aise
grâce
que
à
j'avais
ça.
Lu la, grâce la littérature.
C'est extraordinaire, ça.
Et oui, cette forme de délicatesse japonaise, j'avais l'impression, pas de la comprendre, c'est un pays où on a toujours peur de faire des impairs, je ne demande pas d'être élevé. Bon. Mais enfin, j'étais un peu de plein pied grâce à la littérature.
Et donc la littérature, mémoire d'une identité, comme l'architecture aussi, quand même, d'une certaine façon.
Oui, oui, bien sûr.
Oui, mais alors, si on se situe aujourd'hui par rapport aux inquiétudes que vous exprimiez tout à l'heure, pas sous forme d'inquiétude, mais la question que vous posiez, si l'on se situe, si on se place dans la France métissée, multiculturelle, qui est en train de se développer, par exemple, qu'est-ce qui peut vraiment faire mémoire commune, comme on dit aujourd'hui ?
Oui.
Qu'est-ce qui peut faire mémoire commune ? Parce que vous allez enseigner le Moyen-Âge
Je ne vois pas pourquoi je n'enseignerai pas le Moyen-Âge ou le latin et le grec, alors que j'ai des confrères qui font du vieux japonais ou du vieux cambodgien. Chacun a bien le droit de s'intéresser au passé de l'autre. On n'est pas obligé de s'intéresser uniquement à son propre passé. On nous le serine à longueur de journée. C'est aussi vrai pour tout le monde.
Donc pas de complexe, quoi.
Ben non, tout le monde a le droit de s'intéresser à son propre passé s'il veut, au passé des autres s'il veut, et puis très bien.
Bon, la repentance généralisée, non.
Ben non, c'est pas parce qu'on ne descend pas des Gaulois qu'on n'a pas le droit de s'intéresser aux Gaulois, c'est pas non plus, on n'est pas obligé non plus de s'y intéresser. Enfin,
on peut s'intéresser à eux aussi, quoi.
Ben oui, tout est intéressant.
Sixième question récurrente de notre série L'Essentiel, quel a été, Michel Zinc, le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter? Alors, comme la question est éminemment personnelle, vous avez le droit à un joker, hein, si vous voulez un joker.
Oui, j'utilise le joker. Le plus grand échec de ma vie est un échec d'ordre privé, donc je ne vais pas en parler. Alors, je prends le second grand échec de ma vie, mais c'est un échec aussi vivable. Hein. C'est que mon ambition, c'est pour ça, il vaudrait mieux parler du premier, mais enfin bon. Mon ambition dans la vie, ce n'était pas d'être un professeur, c'était d'être un écrivain. Jeune homme et avec la fatuité des jeunes gens, je ne doutais pas d'avoir un vrai talent littéraire.
Alors, vous imaginiez qui
Eh bien, j'imaginais... Non, je ne me disais pas je serais tel
non,
ou tel,
enfin,
pas,
quel horizon,
pas Chateaubriand.
Quel horizon.
Moi, mais je m'imaginais, bon, comme tous les jeunes gens, j'écrivais des poèmes, et j'imaginais une carrière, j'étais peut-être déjà ringard, à la Bourriac, si vous voulez commencer par publier quelques recueils de poèmes, et puis ensuite des romans.
Ouais. Et terminé voilà. Comme journaliste, quoi. Éditorialiste à l'Express.
Oui, j'allais pas jusque-là, bien que j'ai eu à l'époque la plus grande admiration pour Mauriac, journaliste. Mais je me suis
Je
l'ai encore. Je me suis laissé embarquer dans une carrière universitaire par facilité, parce que c'était la sécurité, parce que j'avais fait de bonnes études. Bon, une fois fait la CAN, j'entre à l'école normale supérieure. Bon, ben, passe l'agrégation. Puis, j'étais premier à l'agrégation, j'étais assistant ensemble. Alors bon, j'étais embarqué là-dedans.
Pas mal, quand même.
Oui, bon, un premier poste flatteur, d'autres ont suivi. Et puis peut-être aussi, ou sans doute, parce que je sentais obscurément que je ne serais pas un grand écrivain, que mes poèmes de jeunesse n'étaient jamais que des poèmes de jeunesse, que je n'étais bon qu'à être prof. Peut-être que je ne me l'avouais pas et que je le sentais. Bref.
Oui, il y a une autre façon de voir ça, quand même, de dire que, comme vous maîtrisiez, vous étiez l'un des pontes de votre domaine, le fait de maîtriser un domaine fait qu'on y éprouve un bonheur.
C'est vrai, hein, mais enfin, j'ai pas commencé non plus comme pont, et puis j'aurais pu avoir le courage de dire oui, mais c'est pas ça que je veux faire. Là, ce qui montre que j'ai pas de courage, c'est que je ne me suis lâché que 30 ans plus tard, alors que j'étais professeur au Collège de France, qu'il ne pouvait plus rien m'arriver, que je ne risquais plus rien que le ridicule, qu'il ne tue pas comme chacun sait. Alors à ce moment-là, j'ai publié des romans, contes, des ouvrages extraordinaires, et extraordinaires. Là, tiens, ça, c'est pas mal. Non, disons que, pour excuser mon lapsus, on peut dire que je le prends au sens universitaire où un professeur ordinaire est un professeur titulaire et un professeur extraordinaire, un sous-fifre. Bon, c'est des ouvrages, donc ce truc sur mes lectures d'enfants, enfin d'autres. Mais ma punition, c'est que ces livres n'ont rencontré qu'un succès d'estime. Peut-être qu'ils méritaient pas mieux, peut-être que j'ai un peu déconcerté en sortant de mon rôle de médiéviste. Et ça a été... Parce qu'il y a eu un moment où bon, je me suis mis à écrire de romans, je me suis dit, ah ben voilà, maintenant, je vais devenir un écrivain. Puis on m'a regardé en disant, ah bon. Et alors, j'ai surmonté cet échec qui est en fait très supportable, en me disant qu'au fond, que c'était bien fait pour moi, que j'aurais dû savoir dès le départ ce que je voulais, et qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux, que ce serait immoral. Donc, c'est comme
Mais
ça.
Mais quelque part, ça a justifié votre vie telle qu'elle s'est déroulée.
Oui.
Imaginez que vous soyez dit, maintenant, ah... Flûte, j'étais un écrivain, vous vous rendez compte, le temps perdu, là.
Oui, bien sûr. Oui, mais en fait, et d'ailleurs c'est pour cela que j'ai l'impression d'être, tout le monde a l'impression d'être un imposteur, mais que j'ai l'impression d'être un imposteur comme secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions des
belles lettres. Ça, j'ai du mal à le croire.
C'est que je ne suis pas un véritable érudit. J'aime parler, j'aime écrire. Quand j'arrive à écrire un petit roman, mon petit roman peut-être pas très bon, mais j'éprouve un très très grand plaisir à écrire mon petit roman. Plus maintenant, je l'avoue, qu'à écrire des ouvrages universitaires. Donc quand même, c'est un petit échec.
Septième et dernière question récurrente de notre série L'Essentiel. Quelle est aujourd'hui, Michel Zinc, votre motivation essentielle dans la vie?
Évidemment, j'essaye de remplir du moins mal que je peux mes devoirs professionnels et mes devoirs familiaux. Je n'ai pas grand mérite parce qu'ils sont agréables les uns et les autres. Mais aujourd'hui, depuis toujours, à vrai dire, mais avec une coloration différente maintenant que la vieillesse approche ou qu'elle est là, ma préoccupation première est religieuse. J'ai toujours vécu avec de profondes préoccupations religieuses.
Mais c'est préoccupation religieuse ou la mort ?
Ah non, 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 non.
C'est pas la mort.
C'est des questions.
C'est pas la mort.
C'est pas la mort, c'est la foi.
D'accord, ok.
Non, non, mais c'est... Non, je n'ai pas... J'ai peur de la mort comme tout le monde, mais j'ai pas plus peur maintenant qu'il y a 30 ans. Non, non. C'est la foi, c'est un appui, mais c'est encore plus une inquiétude. Enfin, c'est comme... Là aussi, c'est pas original, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Alors, est-ce que c'est une motivation ? D'une certaine façon, oui, parce que, d'abord, j'y pense beaucoup, et dans le choix... Par exemple, de mes sujets de travail, des sujets de mes cours, des sujets de mes livres, ça a joué un grand rôle. Ce serait vraiment ma motivation si je plaquais tout, si j'allais vivre pauvre parmi les pauvres.
Alors oui, mais que... ça, c'est de la sainteté, c'est autre chose.
Il faut savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Je dis, ah oui, j'ai eu toute ma vie de grandes préoccupations religieuses. Comme nous, j'ai surtout été préoccupé de moi-même. J'arrive dans les honneurs universitaires. Je m'apprête à m'installer dans un appartement de fonction Quai de Conti. Je ne suis pas un modèle de l'application de la pauvreté évangélique. Mais cependant, c'est quelque chose... Bah, je ne peux pas dire que ça ne compte pas pour moi. Ça compte énormément.
Mais quand vous dites « ça me préoccupe », est-ce que vous pourriez nous dire, c'est évidemment très intime ça, les questions essentielles que vous posez, quoi, celles sur lesquelles vous butez.
Mais,
quoi vous butez ?
Mais je bute parce que...
Que dans le mystère de la foi, quel est votre... Dans ce mystère-là, extraordinairement porteur.
Oui.
Qu'est-ce qui vous...
Alors, je suis pleinement satisfait par les évangiles. Je trouve tout de même, et comme tout le monde, que le bon Dieu ne se manifeste pas beaucoup. Et il y a des moments où où la foi est difficile.
Parce que pour vous, Dieu est nécessairement tout-puissant, par exemple ?
Vous mettez le doigt sur la chose.
Parce qu'il y a quelqu'un que je ne citerai pas, mais dont la mémoire est exceptionnelle et la qualité de vie, c'était un saint, et qui disait, moi, j'ai choisi entre l'idée d'un Dieu tout-puissant et d'un Dieu infiniment bon. Pour moi, il est infiniment bon, mais il n'est pas tout-puissant.
Oui, c'est aussi mon choix. C'est aussi mon choix, et c'est pourquoi le christianisme est une religion qui me satisfait, vraiment, autant que les satisfaire, parce que le Dieu qu'on peut connaître est un Dieu incarné
et
un Dieu souffrant, un Dieu faible. Effectivement, pour moi, c'est la faiblesse de Dieu qui permet la foi. Mais enfin, il y a cette faiblesse, pas qu'on peut limiter, enfin, c'est plus vraiment la dévotion moderna, mais tout de même, je pourrais m'en inspirer davantage. Je vois, même ici, Monsieur le chancelier de Breuil me fait siéger, comme nous tous nous donnons dans les conseils d'administration de fondations abritées par l'Institut. Et comme il me connaît, je siège dans des conseils d'administration de fondations qui ont
cette préoccupation.
Et alors, je vois des personnes, mais qui sont admirables, qui donnent non seulement leur fortune, mais leur temps, leur confort, qui renoncent à des héritages, qui vont vivre avec femme et enfants dans les quartiers nord de Marseille, dans des conditions absolument impossibles pour partager le sort des habitants. Et alors, ça me fait sentir... mon infériorité, c'est pas... Non, ça, je le fais
vous avez de la chance, parce que quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que finalement, qu'on soit croyant ou pas, on est obligé de constater que le Christ ne s'arrête qu'auprès des marginaux, des paumés.
Oui, alors...
L'Évangile n'est pas fait...
Oui, mais... Je sais pas comment...
Un grand théologien, un centre chérif, m'a dit un jour, l'Évangile n'est pas fait pour les bien portants. Donc vous êtes,
Oui. Non, ça, c'est très bien. Non, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que... Les paumés, ce sont les membres de l'Académie des inscriptions des belles-lettres.
Donc,
notre Seigneur Jésus-Christ a pour eux une attention toute particulière. Merci.
Nous attendrons.
Merci.
Ainsi t'achève cet essentiel, dont l'invité était donc aujourd'hui avec infiniment d'humour et de sagesse, Michel Zinc. Donc, grand philosophe, philologue. Philosophe, il le devient.
Non, je ne me suis guère.
Et médiéviste, donc le spécialiste éminent de la littérature du Moyen-Âge. Et depuis le 28 octobre 2011, tu sais, je troublais sa vanité, je rappelle qu'il est secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Michel Zinc, merci.
Merci.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.